France Inter.
L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Fabrice Desmal à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
J'ai beau regarder les hommes, soit avec un regard bienveillant, soit avec le mauvais œil. Je les trouve toujours occupés, tous et chacun en particulier, à une même tâche. À faire ce qui est utile à la conservation de l'espèce. Et ce n'est certes pas à cause d'un sentiment d'amour pour cette espèce, mais simplement puisque, en eux, rien n'est plus ancien, plus fort, plus inexorable, plus invincible que cet instinct. Puisque cet instinct est précisément l'essence de notre espèce et de notre troupeau. Quoique l'on arrive assez rapidement, avec la vue basse dont on est coutumier, à séparer nettement selon l'usage, à une distance de 5 pas ses prochains en hommes utiles et nuisibles, bons et méchants, lorsque l'on fait un décompte général, en réfléchissant plus longuement sur l'ensemble, on finit par se méfier de cette épuration et de cette distinction, et l'on y renonce complètement. L'homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l'espèce. Car il entretient chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l'humanité serait amollie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir de rapine et de domination, et tout ce qui, pour le reste, s'appelle le mal, cela fait partie de l'extraordinaire économie dans la conservation de l'espèce, une économie coûteuse, prodigue et, en somme, excessivement insensée. Mais qui, cela est prouvé, a conservé jusqu'à présent notre espèce.
Extrait du Gai Savoir de Nietzsche. Notre existence bornerait-elle à la conservation de l'espèce? François Julien, qui est notre invité, nous dira ce qu'il en pense. Lui qui publie un livre intitulé « Vivre enfin ». Plus exactement, c'est celui dont nous avons choisi de parler durant cette heure, car François Julien est un philosophe prolixe. J'ai autour de moi, au moins, j'ai compté 5 livres sortis il n'y a pas si longtemps. Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à celui-ci, qui est publié chez Plomb, « Vivre enfin ». Faut-il, François-Julien, se débarrasser de beaucoup de pelures d'oignons, pour trouver le noyau de la vie, pour attraper cette vie qui nous échappe, alors même que nous sommes vivants, et faut-il forer en soi, et si oui, comment? C'est tout un programme.
Je distinguerai d'abord la vie et vivre. Parce que la vie, c'est encore de la généralité. Vivre, on est personnellement engagé. Et il me semble que, par écart avec ce qu'on a entendu de Nietzsche, le problème de vivre, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est qu'à la fois, nous sommes depuis toujours déjà engagés dans la vie, on est dedans. Je dirais depuis toujours. Autant remontons dans sa mémoire, on est quand même déjà dans cette condition de vivant. Et en même temps, on ne vit jamais complètement. Effectivement. Donc on est en paradoxe entre être en vie, ce qui est la condition de toutes les conditions, et en même temps accéder au vivre, ce qui est l'aspiration de toutes les aspirations.
Engagé, enfin. Engagé, diriez-vous, que nous sommes en quelque sorte enfouis par la vie.
On est enfouis par la vie, et c'est ce qui conduit à penser qu'il faut découvrir la vie, c'est-à-dire la sortir de ce recouvrement. Donc découverte non pas au sens de découvrir l'Amérique, mais découverte au sens de découvrir, c'est-à-dire retirer ce qui couvre, effectivement les pelures si vous voulez. Mais c'est pas seulement les pelures de soi-même, c'est aussi toutes les pelures de la vie elle-même, n'est-ce pas? Qui fait qu'il faut faire émerger ce qu'on ne cesse de recouvrir, qui est cette capacité de vivre, en retirant bah oui tout ce qui l'aplatit, l'amortit, bref, la dissimule à la vie.
La vraie vie est absente, écrivait Arthur Rimbaud.
Cette notion de vraie vie me paraît essentielle parce qu'au fond, elle nous écarte de tout ce qui est le marché du bonheur et toutes les banalités qu'on peut dire ainsi, sur, notamment dans le cadre du développement personnel, en fait, de tout ce qui est ce...
J'ai cru comprendre que ça ne vous plaisait pas beaucoup, ça.
Ouais, c'est un marché. J'essaie de faire autre chose. Oui, c'est-à-dire au fond que cette vraie vie, c'est au fond le fait, non pas d'indexer la vie sur la vérité, ou de projeter une vérité sur la vie, mais de vivre vraiment, vrai au sens de vraiment. Oui, donc la phrase de Rimbaud, mais déjà celle de Platon. Quand Platon dit dans tes têtes la vraie vie des dieux et des hommes bienheureux, c'est ce aletes bios qui met en valeur Rimbaud, bien sûr, la vraie vie est absente, mais aussi Proust, à la fin du temps perdu, donc dans le temps retrouvé, sur la vraie vie qu'on essaie justement de recouvrir, même au niveau de la sensation ou de l'émotion la plus élémentaire, par le langage, par la codification, par tout ce qui est comme ça, en fait, vient recouvrir cette capacité, cette émergence du vivant en nous. Et puis je pense à la formule que Adorno met en exergue.
Là, il y a la vie fausse, c'est-à-dire qu'il y aurait la vraie vie et la vie fausse de l'autre côté.
J'y venais par Adorno. La vie fausse, falsche, leben. Et ce qu'il met en exergue, à minima moralia, la vie ne vit pas. Je trouve l'expression est profonde, la vie ne vit pas. Donc nous sommes, je dirais, il y a le contraire de la mort, c'est être en vie ou être mort, et puis ça c'est le vital. Mais il y a le vivant, et le contraire du vivant, c'est la non-vie. C'est la non-vie, c'est la vie fausse, c'est où on croit qu'on vit mais on ne vit pas vraiment. Bref, cette illusion qu'on vit alors que notre vie est recouverte, enlisée, et disons, n'a plus cette capacité de faire émerger la vie en nous.
Le philosophe québécois Louis-André Dorion.
On trouve souvent chez lui l'affirmation d'après laquelle l'important n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Et bien vivre au sens moral du terme, non pas au sens matériel du terme. Donc, il est déjà très clair que pour Socrate, et aussi curieux que ça puisse paraître pour nous, que la vie n'est pas une valeur qui doit être préservée à tout prix. La vie n'est ni un bien ni un mal. La vie est un indifférent. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à son procès, c'est la raison pour laquelle il ne cherche pas à obtenir coûte que coûte, à tout prix, l'acquittement. Et il le dit pendant son procès. J'aurais pu faire comme font de nombreux condamnés dans ma situation, c'est-à-dire faire monter à la tribune ma femme et mes enfants, puis vous cherchez à vous apitoyer sur leur sort. Cela serait indigne de moi et indigne de vous. Et il se défend à l'occasion de son procès de la même façon qu'il a vécu. Et de fait, à l'occasion de son procès, il refuse les artifices de la rhétorique. Donc il se défend comme il a vécu, il demeure fidèle à ce qu'il a été, à la pratique de la dialectique, quitte à être condamné. Mais encore une fois, pour lui, l'important n'est pas de vivre, l'important est de bien vivre.
La vie est un indifférent, François Julien.
Oui, mais d'abord, je voudrais revenir à ce que je viens d'entendre. C'est le thème de la vie bonne. C'est le thème grec de la vie bonne, le eudzen. Je m'en écarte, n'est-ce pas? Je pense que, justement, si l'on parle de vraie vie, c'est que on s'écarte du thème du bonheur, qui est une sorte d'image d'épinal trop facile de la satisfaction, mais on s'écarte aussi de ce thème grec, de la vie bonne, du bien vivre, qui illustre effectivement Socrate, pour penser à autre chose, une autre exigence, n'est-ce pas, qui n'est pas seulement morale, qui est celle de ce qu'on vient d'évoquer, à savoir ce recouvrement de la vie par la vie. Et cette exigence de vraiment vivre, effectivement vivre, c'est pas seulement moral, c'est pas, c'est le fait que, on est en vie, mais est-ce qu'on vit vraiment? L'idée que ce vivre vraiment, c'est une sorte d'horizon auquel on parvient si difficilement.
Ça échappe
le titre,
à l'esprit.
Vivre enfin.
Ça échappe à l'esprit de vivre enfin.
Je crois que ça échappe à la condition humaine. C'est beaucoup plus large. C'est le fait que, en fait, on est en vie, mais est-ce qu'on est capable effectivement de vivre, c'est-à-dire de répondre à cette exigence du vivant en nous? Parce que, au fond, ce qui m'importe là, c'est de distinguer le vital et le vivant. Le vital, qui est le fait d'être en vie, dans l'opposé, c'est la mort, et le vivant, qui est la capacité de répondre à cette émergence de la vie en nous. Et la question, c'est effectivement, la vie n'est pas seulement du vital, elle est aussi du vivant. C'est pas seulement l'exubérance ou la plénitude du vital, c'est aussi une exigence d'être effectivement dans cette capacité de vivre. Et de ne pas laisser la recouvrir, de ne pas être dans une pseudo-vie. C'est ça l'exigence.
Ça fait plus de 10 ans hein, que le sujet vous occupe, François Julien. Est-ce que vous arrivez à repérer un peu mieux la région où vivre?
Oui, la région où vivre, comme le dit Mallarmé, c'est vrai que c'est, je crois, une ambition essentielle de la pensée. Alors, j'ai engagé ce chantier sur vivre, en fait, Dans un passage entre ma réflexion entre pensée chinoise et pensée européenne, qui était le premier temps de mon travail...
Parce que vous êtes helléniste et sinologue.
Helléniste et sinologue, c'est ça. Et donc, lisant du chinois, lisant du grec, lisant de l'allemand, enfin, étant dans... Non, pas du tout de la philosophie comparée. Hein, c'est pas du tout ça. C'est pas comparer la pensée chinoise à la pensée européenne. C'est les mettre en vis-à-vis pour les réfléchir l'une par l'autre. Et donc, ouvrir notre horizon de pensée. C'était le premier temps de mon travail, dont je n'ai pas coupé, mais dont je me suis progressivement déporté, pour penser vivre par rapport à la pensée de l'être. Au fond, c'est ça mon problème de départ, si vous voulez, la pensée européenne, grecque et une pensée de l'être. Et ce qui m'a intéressé en Chine, c'est qu'il n'y a pas d'ontologie. Il n'y a pas de pensée de l'être, n'est-ce pas ? D'abord parce que le verbe être en tant que tel ne se dit pas en chinois, donc c'est radical. On peut dire je suis ici, mais on ne peut pas dire je suis ou je ne suis pas, to be or not to be. Donc ce qui m'a intéressé, c'est que ce qui a été la voie, disons, majeure de la philosophie européenne, depuis les Grecs, la pensée de l'être, en fait se trouvait... qu'elle n'est pas déployée du côté chinois, comme si la pensée chinoise était passée à côté de cette pensée d'être, mais à penser. Elle a pensé quoi ? Ben, je dirais essentiellement le vivre. Donc, ce passage de l'être au vivre a été pour moi l'occasion d'un tournant dans ma réflexion pour une philosophie plus générale autour de cette question qui me paraît la question même de la philosophie, savoir vivre, n'est-ce pas ? Et avec cette difficulté essentielle, c'est que vivre, c'est peut-être ce qu'on peut le moins saisir par des concepts. Pour moi, la philosophie, c'est produire des concepts, disons, poser des questions à partir des concepts qu'on a produits. Donc, le concept, c'est l'outil même de la philosophie, à titre d'outil, n'est-ce pas ? Donc, la question devient comment essayer de penser vivre conceptuellement, pour se séparer effectivement du marché du bonheur, du développement personnel, ben, tout ce qui est une sorte de sous-pensée, n'est-ce pas, de la vie. Et c'est ce que j'ai proposé dans ce livre, en reprenant un peu mon travail, des concepts, donc, qui, cette distinction du vital et du vivant, mais que faisaient déjà les Grecs, hein. Psyché, zoé, c'était déjà en grec, mais aussi la pensée de l'inouï, de l'intime, de l'incommensurable, ce que j'ai appelé la transparence du matin, enfin, ce qu'on a appelé transparence du matin, pour essayer de voir jusqu'où peut aller la philosophie pour saisir conceptuellement ce qui résiste le plus au concept. Et c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant pour l'entreprise philosophique que de se risquer à essayer de penser conceptuellement, c'est-à-dire par une abstraction, mais une abstraction qui ne nous détache pas de l'existence, qui soit une sorte de condensateur d'expérience. Bien sûr, le concept passe par l'abstraction, on décolle. Mais il faut réatterrir, n'est-ce pas ? C'est possible un peu plus loin. Et donc penser le concept comme, à partir de l'abstraction, comme un condensateur, comme un intensificateur d'expérience. C'est ça qui me paraît, disons, faire que la philosophie puisse changer la vie. C'est quand même, disons, l'ambition, je crois, de la philosophie.
Et François Julien, c'est un bonheur que de vous avoir pour pilote. Life of on Mars, c'est une chanson de David Bowie. Je vous recommande d'ailleurs la série d'émissions que Mishka Assayas lui consacre. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow.
Now the workers have struck for fame, 'cause Lenin's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best. Is there life on
Simone de Beauvoir?
Je crois que c'est parce que j'ai le goût du bonheur d'une manière très forte que j'ai également le sens du malheur et que le malheur m'apparaît comme quelque chose de tragique. Je le dis d'ailleurs aussi ça dans mes mémoires, que j'ai toujours séparé les ténèbres de la lumière en quelque sorte. Les choses sont très noires ou très lumineuses dans l'ensemble pour moi. Peut-être un peu plus d'ailleurs quand j'étais jeune que maintenant, ou malgré tout quand on vieillit, les deux se mélangent un petit peu plus, les bonheurs sont un peu moins vifs et le sens de la mort un peu moins tragique, parce qu'on sait bien, on a fini par comprendre qu'il faut s'y acheminer et qu'après tout, c'est la seule solution. Mais enfin, j'ai quand même encore un peu ces deux tendances qui sont encore assez nettement séparées, enfin, séparer la lumière et l'ombre. Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie, je suis extrêmement contente de ma vie, et je trouve que si on prend le mot de Goethe, qu'est-ce que c'est qu'une belle vie, ce sont des rêves de jeunesse réalisés dans l'âge mûr, eh bien, alors, vraiment, j'ai réussi ma vie, puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves. Simplement, il y a un moment où quand on se retourne réflexivement sur sa vie, on s'aperçoit qu'une vie même réussie, c'est sur un certain plan un échec, parce que ça n'est pas quelque chose, une vie, qu'on puisse prendre dans ses mains, posséder, contempler, qu'on n'a pas une vie finalement.
On n'a pas une vie, François Julien ?
Oui, moi je suis toujours étonné, si vous voulez, de cet attachement atavique à l'idée du bonheur. Et je trouve un peu dommage que Simone de Beauvoir n'y échappe pas, si vous voulez. Même Freud n'y a pas échappé, hein. Même Adorno. C'est-à-dire qu'au fond, cette image d'Épinal, heureux, malheureux, étant passé par la pensée chinoise, notamment ce qu'on appelle taoïste, un peu du côté du Zhuangzi, je me suis rendu compte à quel point penser l'un, c'est penser l'autre, et finalement, ça nous enferme.
C'est un carcan ?
Oui, c'est un carcan. Et puis, finalement, le bonheur renvoie à l'idée de satisfaction. On sait bien qu'il n'y a pas de satisfaction. Même Freud l'a dit le plus précisément. Même la satisfaction dite sexuelle n'est pas satisfaisante. Il y a une fêlure qui fait que la satisfaction, au fond, c'est quelque chose de superficiel et une sorte d'image de contentement qui n'est pas vraiment sérieuse, non seulement parce qu'elle ne serait pas réelle, il ne serait pas réel ce contentement, mais parce que, justement, ce qui nous promeut en homme, c'est qu'on ne se satisfait pas de la satisfaction. N'est-ce pas ? C'est ça qui me paraît essentiel. Donc, j'essaie de penser la vraie vie par distinction avec cette image du bonheur à laquelle on est collé comme ça, je ne sais pas pourquoi.
Mais pourquoi pourtant on se demande souvent, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ou qu'ai-je fait de ma jeunesse ? Ça sont des questions que tout un chacun peut se poser.
Tout à fait. L'usage de la vie, comme disait Descartes, n'est-ce pas, ou Spinoza. Oui, qu'est-ce que j'en fais ? C'est même la question essentielle, la question radicale, la question qu'on ne peut pas éviter. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Mais justement, je crois que là, ce qui est à penser, c'est cette séparation entre vivre vraiment, effectivement, ou alors être dans l'illusion de vivre, se contenter d'une pseudo-vie. C'est là qu'il me semble l'écart essentiel.
Mais vivre, c'est inatteignable, comme vous l'écrivez ?
Non, c'est pas la question inatteignable, parce qu'inatteignable renverrait à la satisfaction, c'est-à-dire à l'obtention, à l'acquisition. Non, je pense qu'on est dans une tension entre une vie dans laquelle on est et une vie à laquelle on n'accède pas. Et donc, à la fois condition toutes les conditions, et en même temps aspiration de toutes nos aspirations. C'est ça qui nous met en tension de vivre. En tension. Et vivre, c'est d'être dans cette tension. Et ce que j'essaie de faire sur un plan conceptuel, c'est justement penser à des concepts qui soient des intensificateurs d'expérience. Ce qui menace la vie, c'est quoi? C'est le rabattement. Le rabattement dans la non-vie, la pseudo-vie. Je dirais, on le dit depuis Platon, et Proust le dit magnifiquement, la vie dépouille la vie. Ou quand je citais cette formule qu'Adorno met en exergue, la vie ne vit pas. C'est donc la non-vie qui est notre problème. C'est qu'en étant en vie, on ne vit pas. Et je crois que cela nous dégage de ces banalités sur le bonheur, ce qui vient d'être dit, bonheur, malheur, mais avec la vieillesse, ça s'estompe un peu. Enfin, je trouve que c'est d'une banalité. Alors, c'est pas que ce soit banal qui me gêne. Simplement, ça ne pense pas. Et ça ne nous aide pas, le mot n'est pas très bon, mais ça ne nous porte pas effectivement à vivre.
Je voudrais qu'on revienne sur une notion que vous développez dans cet essai, Vivre enfin, c'est le vital et le vivant. C'est pas du tout la même chose. Et vous rappelez d'ailleurs, je trouve que l'exemple est très parlant, au moment de la pandémie, c'est-à-dire de la Covid, on a rabattu le vivant sur le vital, dans le souci finalement, tout simplement, de rester en vie.
Ce qui était légitime au début de la pandémie, il fallait évidemment sauver les vies. Mais les Grecs ont fait le travail, si vous voulez. Il y a trois mots pour dire vie en grec, ou vivre, n'est-ce pas? Bios, c'est la vie morale et poétique, celle dont parlent Platon, Aristote. Et puis psyché, c'est le souffle vital, et qui sort de nous quand on meurt. Et puis zoé. Zoé, c'est la vie vivante. Dans Aristote, c'est déjà la vie de Dieu. Et dans Jean, l'évangile de Jean, c'est la fameuse phrase, n'est-ce pas, qui est attachée à sa vie la père, mais en grec, il y a deux mots. Et j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas une note en bas de page pour dire, mais attendez, en grec, c'est pas le même vie qui est en question. Il y a d'une part le vital de l'être en vie, d'autre part la source intarissable de vie, le vivant, n'est-ce pas? Et l'épisode de la Samaritaine, c'est justement passer du vital de l'eau qu'il faut boire pour ne pas mourir à, disons, cette eau qui est une eau qui ne cesse de jaillir. Et qui est cette eau, non pas symbolique de quoi que ce soit, je ne crois pas ce clivage du propre et du figuré, mais qui est cette eau intarissable de capacité à effectivement vivre, n'est-ce pas ? Inépuisable, comme il est dit. Donc je crois qu'au fond, ça change les choses que de sortir justement du contexte bonheur, malheur, etc., pour penser, eh bien, l'être en vie et le vraiment vivre. Et effectivement, la pandémie, c'était quelque part un rabattement au début nécessaire de s'occuper du vital de la vie, mais la vie ne se limite pas à ce vital de la vie, n'est-ce pas ? Il y a à penser qu'est-ce que c'est que être effectivement en vie, être vraiment vivant, et je crois que c'est notre occupation la plus légitime ou la plus nécessaire, et que ça nous débarrasse des thématiques trop faciles, du bonheur, de la satisfaction, et toutes les images d'Épinal, si vous voulez, qu'on véhicule à ce sujet.
Alors, au nombre des ruses existant pour épingler le vivre dont nous parlons, il y a peut-être, vous allez nous dire ce que vous en pensez, François-Julien, il y a peut-être la littérature, la poésie, la peinture, l'art en général. Pour Gilles Deleuze, c'est une forme de résistance.
C'est ça, résister. C'est ça, résister, je ne sais pas. On le voit bien avec ce que les artistes font. Je veux dire, il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Moi, je crois que à la base de l'art, il y a cette idée ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, ne cesse pas de tuer la vie. L'artiste, c'est celui qui libère une vie.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, François-Julien ?
Oui, tuer la vie, comme dit Proust, la vie dépouille la vie. Pour moi, c'est le concept de rabattement. On ne cesse de rabattre la vie, n'est-ce pas ? Comment dire, rabattre un arbre ou rabattre un troupeau, enfin, rabattre...
Rabattre un arbre, quelquefois, ça lui permet de reprendre de la vigueur.
C'est pas vraiment rabattre, c'est plutôt c'est tailler, émonder qui donne de la vigueur, mais pas rabattre,
vrai,
n'est-ce pas ?
Vrai.
Non, c'est parce que si on rabat un arbre, c'est parce qu'il fait trop d'ombre ou qu'il gêne la perspective. Ouais. C'est extérieur. Ouais. Alors que l'émonder, c'est au contraire lui donner de la puissance de... Mais je crois que, justement, il y a ce rabattement de la vie qui ne cesse de peser, de menacer la vie. Et vivre, c'est résister à cela. C'est pour ça que j'ai pensé à non-vie, non pas de façon positive, comme dans l'image du bonheur, mais par opposition, on pourrait dire résistance, parce que la vie ne cesse de se résigner. Eh bien, se dérésigner, ça c'est faire apparaître le vivant de la vie. La vie ne cesse de s'enliser. Eh bien, se désenliser la vie, c'est ça, faire émerger le vivant de la vie.
La vie ne cesse de se répéter aussi.
Oui, alors, elle cesse d'être aliénée aussi. Et c'est pas... Le concept est... et qu'il y a un marxiste, mais il ne cesse de se raviver tout ce qui aliène notre vie, le portable, enfin bon, je vais pas entrer dans le détail, mais disons, donc c'est désaliéner sa vie, la vie ne cesse de s'enliser, je dis, ou de se réifier, c'est déréifier la vie. Donc vous voyez, ne pas donner un contenu positif qui reviendrait de la satisfaction et du bonheur, mais penser vivre comme étant résister à ce qui m'empêche de vivre. Donc c'est ce désenliser, dérésigner ou désaliéner qui porte cette capacité de vivre. Effectivement, l'art a vocation à défaire ce rabattement qui ne cesse de peser sur la vie. Mais la philosophie le fait. Je crois que c'est l'exigence même de la philosophie. Et ce à quoi, moi, j'appelle, c'est une philosophie du vivre, n'est-ce pas? Du vivre, que ce n'est pas une philosophie morale, une philosophie... Non, du vivre, c'est-à-dire cette exigence de s'opposer tout ce qui vient rabattre la vie. Et le faire selon les moyens de la philosophie, à savoir conceptuellement.
Mais c'est une forme de résistance, de révolte.
Oui, de résistance, de révolte. Oui, je me méfie un peu de l'affect, souvent, dont on colore ces termes. Mmh. Je dirais, c'est une emprise de... quand je dis désenliser, c'est une opération, disons, en sens contraire de ce à quoi on est soumis ou condamné, qui est l'enlisement de la vie, qui est la résignation dans la vie. Donc, c'est... pour éviter une sorte d'image plate du bonheur de vivre, qui serait une positivité, ce qu'on entendait un peu dans l'expression de Simone de Beauvoir, n'est-ce pas ? Mes rêves, et maintenant mes rêves, je les ai réalisés. Excusez-moi, mais je trouve un peu sot, là, ce développement.
Mais vous avez le droit de le dire.
Parce que je trouve que c'est au fond, elle a tellement pensé mieux que ça, n'est-ce pas ? De façon tellement plus exigeante que de dire finalement, voilà, j'ai réussi ma vie. Bon, réussi ma vie, ça me paraît une idée quand même un peu plate, un peu courte, n'est-ce pas ? Donc je crois qu'il y a une entreprise qui est de dire non à tout ce qui vient recouvrir ma vie. Et c'est l'opération même de la philosophie. Et là, je dirais, Socrate, je suis de son côté.
Vous avez évoqué l'affect, vous avez en tout cas employé le mot. Bien, évoquons l'amour. Serait-il l'inouï de vivre ? Louis Aragon.
Il n'y a pas d'amour heureux. L'impossibilité du bonheur dans le malheur commun est un thème qui est exprimé par ce poème, mais qui se trouve... d'une façon presque constante, tout le long des choses que j'ai écrites. Ici, ce qui est posé en réalité n'est pas la question de la possibilité ou de l'impossibilité de l'amour heureux, mais de la possibilité ou de l'impossibilité du couple.
Et l'amour dans tout ça, François-Julien, je vous pose la question parce que vous en parlez d'en vivre enfin. Vous parlez de la façon dont on peut éventuellement passer par l'autre pour trouver quelque chose, mais en même temps garder suffisamment d'écart pour ne pas non plus ni l'étouffer lui, ni s'étouffer soi-même. Est-ce que vous pouvez nous en parler de tout ça ?
Oui, je regrette qu'on en revienne toujours à ce thème du bonheur. Parce que finalement...
Ah mais il n'y a pas... L'amour ne rend pas forcément heureux.
Non mais dans ce qui vient d'être dit...
Ah oui, non d'accord, mais
dans
vous avez trouvé une
dit, l'amour heureux, l'amour malheureux, là aussi je trouve que c'est un peu, si vous voulez, déjà du recouvrement, n'est-ce pas ? Et je trouve que la philosophie doit justement nous aider à nous détacher de ces, encore une fois, de ces lieux communs qui ne sont pas vraiment réfléchis. Alors, je pense que, oui, l'amour est une expérience essentielle. D'abord, je me méfie un peu du terme. C'est pas parce que l'amour, là encore, les Grecs avaient plusieurs mots, n'est-ce pas ? Entre l'amour don de soi, comme on dit la mère pour son enfant, et l'amour possession de l'autre, l'éros grec, n'est-ce pas ? Je sais pas très bien ce que ça a de commun. Donc on a un grand terme qu'on met avec une majuscule, l'amour, comme étant une sorte d'absolu de la pensée et l'existence. J'en suis pas sûr. Étant passé par une pensée comme la chinoise, je me suis rendu compte que le mot qu'on traduit par amour aujourd'hui en chinois, au départ, est un mot négatif. C'est faire une fixation sur. Et si vous faites une fixation sur quelque chose, ben vous perdez le reste, n'est-ce pas ? Alors maintenant, le terme s'est mondialisé, comme tout, c'est... Bon, voilà, donc on dit amour en Chine comme ici, mais je veux dire, par là, je crois qu'il faut ne pas être dupe des mots, n'est-ce pas ? Et philosopher, c'est d'abord résister, comme vous le dites, à ces sortes de... d'enfermement dans des mots qu'on ne cesse ensuite d'utiliser sans les avoir d'abord réfléchis. Donc il faut faire un écart par rapport à ces expressions communes qui pèsent de nous comme une fatalité. C'est ce que Nietzsche appelait l'atavisme, n'est-ce pas ? Donc philosophie, pour moi, c'est essayer de se décaler, s'écarter de cet atavisme de la pensée qui ne pense pas, pseudo-pensée. Alors par rapport à l'amour, j'ai essayé de faire travailler deux concepts, celui d'intime et celui d'extime. Pour dire ce que vous pensiez, à la fois l'intime, qui me paraît un mot magnifique en français, parce que intime signifie à la fois le plus dedans de moi, mon intime conviction, et en même temps je peux dire, je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Alors qu'on dit je t'aime, en fait, toi, un objet, je t'aime. Mais nous sommes intimes. Donc à la fois, intime fait communiquer ce plus dedans du dedans, c'est un superlatif intime, hein. Intus dedans, intérieur plus dedans, intimus le plus dedans. Un mot latin, pas un mot grec. Et la formule magnifique d'Augustin quand il dit « Dieu est plus intime que mon intime ». Donc Augustin fait un comparatif sur le superlatif. Il appelle Dieu, ça peut être X si vous voulez, ça peut être l'autre, simplement l'autre.
Avec une majuscule.
Avec une majuscule. Et donc, l'intime dit cela, le plus profond du profond de moi, mon intime conviction, et je suis intime avec toi. Donc voilà, et ce qu'il y a dans l'intime, c'est une mise en communication, ou plus encore, des expériences, le fait d'une présence de l'autre partagée, n'est-ce pas ? Ça qui me paraît essentiel. En même temps, l'intime, c'est pas l'intimité, c'est pas l'intimisme, n'est-ce pas ? Donc, je m'en tiens à cette capacité de l'intime. L'intimité, c'est déjà un état, c'est d'être donc un rabattement, une perte. Et donc, je crois que l'intime, c'est donc, au fond, deux choses. Lever la frontière avec l'autre. Bon, avec tout le monde des frontières, n'est-ce pas ? Chacun, ils sont dans son quant à soi. Et en même temps, c'est abstraire l'autre des rapports de force qui font le monde. Quand je suis intime avec quelqu'un, je l'extrais, n'est-ce pas, des rapports de force dans lesquels nous sommes tous, avec le monde, avec la société, sinon nous ne survivrons pas. Donc je crois que c'est les deux conditions. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une histoire de cela. Les Grecs n'ont pas connu l'intime, le mot est latin, et il s'approfondit progressivement. Il a quand même un point de, enfin, une ressource chrétienne. Quand Jésus dit « Je suis en toi, tu es en moi », être en l'autre, ça c'est l'intime. Hein. C'est-à-dire qu'au plus profond de moi, je peux être en même temps en toi, n'est-ce pas ? Et donc, c'est plus ma conscience, ta conscience, il y a de la conscience partagée. Donc ça, c'est une ressource qui me semble essentielle à penser, plutôt que de se laisser aller à ce thème de l'amour qu'on utilise trop facilement et qui console, n'est-ce pas ? C'est facile, actuellement on est déçu de la politique, donc on revient au grand thème amoureux, c'est un peu du commerce aussi. Hein. Donc, penser l'intime et penser que l'intime risque d'être un enfermement avec l'autre. Donc l'extime, c'est-à-dire remettre un écart entre l'autre et soi pour que l'autre ne soit pas assimilé par soi, approprié par soi, mais retrouve un dehors qui fasse qu'on le rencontre encore. Et ça, c'est le problème de la vie du couple, puisqu'il était question de cela dans Aragon. C'est qu'à la fois, je crois, si un couple veut être effectivement une relation, j'ai horreur du mot couple, hein, d'ailleurs, mais je le prends parce que il faut bien prendre des mots communs quand même. C'est au fond que à la fois il faut pouvoir arriver à ce partage des consciences et en même temps ne pas rabattre l'autre, comme la vie cesse d'être rabattue, par une sorte d'assimilation, d'appropriation de l'autre, où la distance de l'autre, où l'émergence de l'autre disparaît. D'où dialectiser, coupler les deux, intime, extime, n'est-ce pas ? À la fois, vous avez une formule dans Montaigne sur le mariage qui est de... secouer de temps en temps pour ne pas se laisser comme ça, laisser la vie s'enterrer avec lui. Non, je pense que c'est plus rigoureux que ça, c'est croiser l'intime, donc faire entrer l'autre au plus dedans de soi, ou plutôt que l'autre soit au plus dedans de soi comme moi au plus dedans de l'autre, l'intime, et en même temps, faire émerger l'extime comme étant justement l'écart qui fait qu'on l'autre retrouve une distance qui fait qu'il peut être à nouveau rencontré de ce dehors dont il émerge. Parce qu'au fond, aussi bien que le drame de l'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour, hein, c'est que bien progressivement, l'assimilation est telle que l'autre n'est plus autre, n'est-ce pas ? Et on passe donc de la rencontre à la relation. Et donc...
Il n'y a pas d'amour fusionnel. On entend ça tout le temps aujourd'hui. Ah, je l'aime d'un amour fusionnel. Oui, c'est valable pour des amoureux, des parents,
sujets,
des enfants.
La fusion ne me paraît pas être idéale dans cette affaire. Parce que si la fusion, on sort de un magma unitaire, et c'est pas plus que ça. Non, je pense que l'autre est l'autre. Il faut qu'il reste l'autre. Parce que si l'autre n'est pas l'autre, comment peut-on le désirer ? Il faut un écart pour qu'on désire. Donc là, je dirais, la ruse de la vie, c'est justement à la fois de pouvoir... ouvrir un dedans partagé entre l'autre et soi, et en même temps réintroduire un écart qui fasse que l'autre existe comme autre, et qu'on puisse à nouveau le rencontrer. Une rencontre continue, comme on disait pour Descartes, la création continue de Dieu.
Et si on dit pas couple, alors on dit quoi ?
Je dis compagnon, je préfère. Hein. Compagnon, compagne, on partage le même pain, enfin bref. Couple, ça veut dire que on est couplé et c'est définitif, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est acquis, que c'est une sorte de rangement de la vie. Et ça, je trouve qu'alors là, c'est mortel.
C'était un merveilleux, c'est toujours un merveilleux écrivain, merveilleux voyageur aussi. On le lit trop rarement, et bien écoutons-le, Nicolas Bouvier.
Alors, je crois que pour Vernet et pour moi, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif, et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi, et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine.
Alors, on a eu envie de vous faire écouter cet extrait d'une interview de Nicolas Bouvier, François Julien. Vous-même, vous avez beaucoup voyagé, tout de même. Vous n'avez pas voyagé qu'en chambre, j'imagine. Que vous ont appris vos voyages, et est-ce qu'ils ont participé au fait de vivre enfin, ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ?
Non, je suis pas un grand voyageur. Je voyage par nécessité. Alors, nécessité justifiée, n'est-ce pas ? Si je suis allé en Chine et pendant des années, c'est parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que je me déporte, que je me décalque, etc. Si je reviens un peu au chantier conceptuel que j'essaie comme ça de tresser, non pas dans de nombreux livres, mais dans quelques livres qui se...
Non, on a compris, vous n'êtes pas prolixe.
Voilà.
J'ai retenu la leçon.
Voilà. Donc, je suis pas comparatif non plus. C'est deux, trois choses que je tiens à redire chaque fois que je... Pour la parole. Il faut bien défendre son travail. Non, c'est le fait, si vous voulez, que voyager pour moi, c'est réintroduire de l'écart dans sa vie. Ce concept d'écart, j'y tiens parce que, comme on dit, bon, d'abord négativement, n'est-ce pas ? Un écart de conduite, un écart de langage, mais en même temps, ce qui se fait par écart comme ça, et qu'on croit d'abord négatif, découvre autre chose, d'autres possibles. Et je crois que pour moi, voyager, c'est justement ouvrir un écart de façon à se déporter de ce dans quoi, bien sûr, comme ça a été dit, on est enfoui, n'est-ce pas ? Pour remettre en tension. Parce que l'écart, c'est ouvrir une distance, mais qui maintient en regard. Et donc, quand on voyage, on ouvre une distance, mais en même temps, c'est un voyage, on ne se réinstalle pas quelque part ailleurs, n'est-ce pas ? On voyage, c'est-à-dire qu'on s'est écarté, mais on n'a pas oublié ce dont on s'est écarté. Donc il y a une tension, et c'est quand même cette tension qui fait vivre. Si je relis dans mes termes, je dirais au fond, le voyager, ça fait décoïncider. C'est-à-dire qu'on est dans une coïncidence de vie qui ronronne, et défaire cette coïncidence, cette adéquation qui fait qu'on ne vit plus parce qu'on est comme ça, on n'est plus dans l'exigence de vivre, eh bien, réapparaît. Et c'est faire réémerger cette exigence par le voyage, donc ouvrir un écart dans sa vie, c'est-à-dire les vacances. Les vacances, c'est pas de rien faire, c'est ouvrir un écart dans sa vie. Et donc remettre en tension sa vie. Décoïncider de la vie enlisée, c'est ça la vocation du voyage, parce que je suis pas un explorateur. Mais par contre, et surtout, vous voyez, quand je suis passé d'Europe en Chine ou au Japon, c'était pas pour me tatamiser ou me siniser, n'est-ce pas ? C'était pour être dans l'entre-deux et dans la tension de cet écart.
Vous êtes bien sur France Inter, et c'est l'heure philo que vous écoutez.
T'as peur de savoir, d'oublier, de revoir. T'as peur de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. T'as peur de crier, de contredire, oui, de t'enfuir. T'as peur de vivre le meilleur comme le pire. T'as peur de vouloir, de recevoir, de réussir. T'as peur de sourire, de regretter, de ne rien dire. Ta part entière, ta liberté, tendre et chère. T'as peur de virages, de lignes droites, tes deux visages. T'as peur d'anges et de démons, ah oui, ta part change. T'as peur de raison, ainsi soit-il. Quelque chose de spécial, ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal. séduire, de construire, de tout garder ou de tout offrir. Ta part de je t'aime, tes poèmes, ton éphémère, ta part de lueur, de regret, de droit à l'erreur, ta part de savoir, de devenir, de désespoir, ta part de souffrir, de n'être rien ou de n'être pire, ta part semblable, oui désirable, oui remarquable, ta part de tenir, de simuler, de ne rien dire.
Gaëtan Roussel, il y a un livre dont on n'a pas encore parlé, pourtant je l'ai entre les mains, François Julien. Il s'intitule « Dénouer, petite philosophie pratique de la médiation ». C'est publié à Rue de l'Échiquier, aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est quoi? C'est de la philo de terrain?
Oui, d'abord, ce n'est pas un livre, c'est un tout petit texte, n'est-ce pas? Je dirais plutôt libelle, moins
très
qu'un
bien.
Livre, n'est-ce
d'accord.
pas? Et je tiens à cette forme d'expression, parce qu'aujourd'hui on lit de moins en moins. Et pour pointer une question que j'ai créée sous le titre « Petite flèche ». C'est une petite flèche, c'est donc pas un livre, c'est pas un opus, non, c'est l'inverse. Et par rapport à une question qui est la médiation, parce que la médiation, ça devient un peu important aujourd'hui, c'est dans la société, je veux dire. Donc effectivement, penser une philosophie de terrain, c'est-à-dire qu'il y a sur le terrain des autres. Je tiens à la philosophie spéculative, mais il n'y a pas que ça comme vocation de la philosophie. Et donc, essayer de rencontrer l'expérience des autres, c'est-à-dire être utile conceptuellement pour éclairer ces expériences. Et la médiation, si vous voulez, alors là je l'ai mise en rapport, c'est une conférence qu'on m'avait demandé, avec, disons, certains concepts de mon travail, par exemple celui de potentiel de situation. Au fond, non pas projeter un plan, mais voir quel est le potentiel de la situation dans laquelle on est. Je pense qu'un médiateur, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il ne commence pas par faire le plan de la médiation qu'il va essayer de faire avancer, mais se dire, mais quelle est la situation dans laquelle qu'est-ce qui peut être porteur dans cette situation pour m'aider à opérer cette médiation? Bon, de même, ce qui me paraît important, c'est de distinguer la figure du médiateur de celle du juge. Celle du juge qui est la grande figure qu'on a pensée dans la tradition européenne, n'est-ce pas? Avec la vérité, avec le juste milieu, avec bon, tout cela qui fait l'impartialité. Il me semble que le médiateur doit être à détacher de cette figure-là, parce qu'il pense non pas, en fait, où son enjeu n'est pas vraiment la vérité, mais la viabilité, rendre viable, n'est-ce pas? Là, je me reporte aux notions chinoises, n'est-ce pas, de voie, comme étant la voie, non pas qui conduit vers quelque part, mais du viable, par où ça passe, par où c'est vivable. Oui, je ne l'ai pas nommé, mais c'est lui dont il s'agit. Et puis, si vous voulez penser ce qu'on... Alors, c'est un terme qui revient tout le temps aujourd'hui en France, le compromis, comme étant, disons... l'ultime figure de la politique, comme si c'était ce qu'on devait vraiment promouvoir en France. Le compromis, c'est faible. C'est faible, n'est-ce pas? C'est couper la poire en deux, mettre de l'eau dans son vin. Cette sorte de chacun s'arrête à mi-distance pour... Mais ça reste du rapport de force. Et finalement, est-ce que c'est une politique, le compromis? Si on fait un peu de ceci, un peu de cela, n'est-ce pas? Il me semble que vous pensez quelque chose d'autre, beaucoup plus exigeant. Le concept n'est pas de moi, c'est le compossible. Passer du compromis au con possible. Le compromis reste dans les rapports de force. On le voit bien sur le plan international aujourd'hui, que ce soit entre Israël et Gaza, que ce soit... Bon, on arrive à un compromis comme si c'était résolu. Non, parce que le lendemain, le rapport de force change et le compromis, ben, il va sauter. Il va, disons, de nouveau être remis en question et voire oublié. Donc, pensez la compossibilité. Ça, je crois que c'est la véritable exigence du médiateur, ça devrait être aussi celle de la France d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité pour gouverner, qui est donc de faire en sorte qu'une possibilité s'ouvre et pour l'un et pour l'autre, et donc qu'on s'extrait du rapport de force immédiat pour retrouver une logique de possibilité partagée. Pour moi, l'édit de Nantes, ça a été ça. C'est pas du compromis sur le cas, la figure de la Vierge, n'est-ce pas? Un peu de ceci, un peu de cela. Je dirais l'Europe d'après la Seconde Guerre mondiale. C'était ouvrir du compossible. On a vu à quel point les nationalismes s'entretuaient. Donc, s'écarter de ce qui a précédé pour repossibiliser l'histoire. À partir de, justement, de ce que j'ai appelé potentiel de situation, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut, là aussi, être vigilant. On est trop dans des mots maintenant qui sont des mots, qui semble indispensable à la pensée, ou plutôt qui ne pense plus, résilience, compromis, enfin tous ces mots, si vous voulez, qui au fond nous enferment dans une sorte de faux débat. On dit on débat, mais en fait on débat pas, on débat à l'intérieur de ces mots-là. Il me semble que la philosophie est d'avoir cette exigence de, justement, de se demander qu'est-ce qu'on pense avec ces mots, et si on pense pas avec eux, eh ben, d'en changer, hein. Et d'essayer de, vous voyez, ce que j'essaie de faire entre compromis et compossible, c'est justement passer d'un mot qui était un mot, comme on dit, valeur, un mot de, qui ne signifie plus rien, au mieux un peu de bonne intention, hein, mais qui rate l'essentiel, qui est la tâche de l'homme politique, qui est de trouver par où l'histoire peut passer. N'est-ce pas? Donc, quelles sont les logiques qu'il faut retrouver et qui ne cessent d'être sans doute rabattues pour, disons, repossibiliser. Nous devons repossibiliser notre vie, n'est-ce pas? Eh bien, repossibiliser aussi la politique. C'est ça qui me paraît essentiel. C'est pas une autre politique, c'est pas justement les rêves et la réalité, c'est pas ça du tout. C'est, disons, retrouver, s'écarter de ce qui s'enlise et se perd dans notre vie comme dans la vie politique, pour relancer ce que j'ai appelé décoïncider, pour repossibiliser la pensée et la société.
Vivre ne se passerait-il pas tout entier à la lisière indécise du possible et de l'impossible, devenant un tant soit peu possible? Point d'interrogation, c'est une question, une des questions nombreuses que vous posez dans cet essai « Vivre enfin », François Julien. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être philosophe?
Ça l'est de plus en plus, je crois. En même temps que, me semble-t-il, ce sont encore de plus en plus nécessaires pour la société. Parce qu'on est dans un régime d'opinion. Et philosopher, les Grecs l'ont dit, c'est le grand terme de Platon, c'est s'écarter de l'opinion. Ouvrir un écart, non pas l'oublier, non pas l'effacer, mais ouvrir un écart par rapport à l'opinion, en décoïncider, de façon à ne pas être enlisé dans l'opinion. Et donc de faire travailler la pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, le régime de l'opinion est de plus en plus consistant, excusez-moi de le dire, mais les médias y contribuent aussi, n'est-ce pas? Et donc de faire surgir une interrogation qui se défasse de tout ce qu'a comme ça tressé et ce par quoi l'opinion nous enferme est de plus en plus difficile à secouer. Je crois que c'est le cas, n'est-ce pas? Tous les termes sont des mots coïncidents qui sont, je dis résilience, tous ces mots-là, si vous voulez, font que on ne débat que dans le débattable. Et en fait, qu'est-ce qui reste non débattu dans nos débats? Et je crois que c'est le rôle de la philosophie que de faire émerger ce qu'on ne pense pas. Non seulement ce qu'on ne pense pas, mais ce qu'on ne pense pas à penser, n'est-ce pas? C'est ça qui est l'enjeu. Et je crois que la tâche de la philosophie est de plus en plus difficile aujourd'hui parce qu'à la fois, le rythme de l'opinion est dominant, le marché est dominant. Les livres sont de plus en plus, y compris des livres prétendus de philosophie, sont des produits de marché, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on en demande? C'est de la vente immédiate. C'est pas de la réflexion, c'est pas de la pensée. Donc, si vous voulez, je crois que la situation est critique. Et il est de plus en plus difficile de philosopher, et donc il est de plus en plus nécessaire de le faire.
Merci François Julien, en tout cas vous nous avez fait chauffer la cervelle. Vivre enfin, ça c'est un essai donc qui est publié chez Plon, il y a Dénoué qui est publié à Rue de l'Échiquier, il y a La transparence du matin aux éditions de l'Observatoire, enfin bref, il y en a beaucoup, tout ça est sur notre site. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
Merci.